Voilà, nous écoutons maintenant Bénédicte qui nous propose un exposé pour cette deuxième session de Job sur les chapitres 16 à 19 et nous sommes le 26 septembre. Nous t'écoutons Bénédicte.
Donc nous avons commencé par revoir les questions qui se sont posées durant notre première séance et par faire l'interface, l'intersection entre ce que nous avons vu la fois passée et le chapitre 16 d'aujourd'hui. Et nous reprenons donc au chapitre 16. Job prit la parole et dit « Que de fois ai-je entendu de tels propos et quelle pénible consolation, consolateur vous faites ? Y aura-t-il une fin à ces paroles en l'air ?» Job signifie ici à ses amis que les paroles qui sortent de leur bouche, leur certitude venant de leur dogme, venant de l'extérieur de sa propre souffrance, sont aussi vaines que leur semblent l'être ses paroles à lui. Job ne peut démissionner. Son point de vue est tout autre que celui de ses amis, qui viennent lui dire « Le salaire de la vertu est la bénédiction divine dès ici-bas », alors que Job parle de l'intérieur de sa souffrance. Les paroles de ses amis ne répondent pas à sa souffrance. Job se tourne alors vers Dieu. Il passe alternativement du « il » quand il parle de Dieu au « tu » pour parler à Dieu. Alors qu'il répond à ses amis, c'est contre Dieu que se dirige sa révolte. N'est-ce pas lui qui rétribue ? Ses amis pourraient le consoler, mais Dieu seul peut lui faire justice. Le tutoiement qui suit est paradoxalement l'expression de la foi de Job en un Dieu juste et de l'espérance qu'il lui soit fait justice. Oui, 16-8, ça, 16-8. En 16-12, je vivais tranquille quand il m'a fait chanceler, saisi par la nuque pour me briser. Il a fait de moi sa cible, il me cerne de ses traits, transperce mes reins sans pitié. Il fonce sur moi tel un guerrier. Contrairement à ce que prétendait Eliphaz, ce n'est, selon Job, pas lui-même qui brave Dieu comme un guerrier, mais Dieu qui le brave, lui, Job. Job reprend des images classiques de l'Ancien Testament pour se décrire comme la proie de Dieu. Mais il y a un renversement. Dans l'Ancien Testament, ce sont les méchants que Dieu poursuit, dont Dieu fait sa cible, Dieu qui est juste. Alors qu'ici, dans son bouleversement, Job voit Dieu comme le prenant lui-même comme cible. Et pourtant, dit-il, point de violence dans mes mains et ma prière est pure. Job se situe en fait ici lui-même dans la logique de la rétribution. J'ai acquis des mérites. Il n'y a point de violence dans mes mains, ma prière est pure, je devrais en recevoir le salaire. Et Job poursuit. Dès maintenant, verset 19, j'ai dans les cieux un témoin. Là-haut se tient mon défenseur. Il vient de se nommer comme cible de Dieu qui cherche à l'atteindre et qui l'atteint. Et voilà que l'espérance revient ici. Et nous nous sommes interrogés, qui donc est ce témoin, ce défenseur ? Et nous avons émis des thèses. Ce pourrait être le témoignage du sang de Job, que Job demande de ne pas recouvrir pour que ce témoin reste bien à la vue de tout le monde, en sachant que Dieu a interdit à Satan de toucher à sa vie. Et donc, cependant, Job se sent comme atteint par une flèche et donc son sang est bien là, dans son vécu subjectif. Le défenseur de Job pourrait être un des fils de Dieu qui était nommé, évoqué au début en 1-6 et en 2-1, que la Septante évoque comme des anges de Dieu, que Elihu Éliou lui-même parle de l'ange intercesseur, plus loin dans le récit, en 33, 23, 24. Donc, soit le sang de Job, soit peut-être un ange de Dieu, soit Dieu lui-même, Dieu dans sa miséricorde, qui vient faire face dans l'esprit de Job à Dieu qui le tyrannise. Dieu dans sa miséricorde que Job peut invoquer et qu'il évoque comme un témoin et son défenseur. Voilà le conflit qui se passe au-dedans de Job dans sa souffrance. En 7:21, « Ne peux-tu tolérer mon offense, passer sur ma faute, car bientôt je serai couché dans la poussière. » Il évoque sa mort, la perspective de sa mort, mais là de nouveau une pointe d'espérance, « Tu me chercheras, comme à tâton. » Dieu miséricordieux en qui Job continue à croire, tout en lui parlant comme s'il l'avait pris pour cible, est évoqué encore ici. Tout au long de sa plainte, Job essaie rageusement de superposer ces deux visages inconciliables de Dieu. Et ici, en laissant à Dieu le secret de sa double image, il affirme l'amour malgré les signes de la colère. Il s'appuie en l'amour créateur. Alors que son vécu est, en 17:2, « Je n'ai pour compagnon que des railleurs dont la dureté obsède mes veilles. » Il demande à Dieu, au verset 3, « Place donc toi-même ma caution près de toi. Tu as fermé leur cœur à la raison, aussi tu ne les laisseras pas triompher. » Ces voix qui se superposent dans le discours de Job rejoignent le lecteur dans le chaos qui peut se passer en lui quand il est soumis à l'épreuve extrême. Alors que tout l'accule au désespoir, que la mort se fait de plus en plus présente dans le dialogue, Job voit son Dieu, son adversaire, susceptible de répondre de lui. Mais plutôt qu'une certitude, il s'agit d'un cri, d'un appel, d'une prière. Comment témoigne le tutoiement? Un tutoiement que seul Job emploie. Les amis, soi-disant amis, parlent toujours de Dieu en « il » et Bernard nous a dit qu'ils parlent toujours de Dieu comme El Shaddai, le puissant, et jamais ils n'emploient le tétragramme, qui est le nom qui dit l'indicible de Dieu, qui dit l'interdit de l'emprise sur Dieu lui-même. Au verset 6 du chapitre 17, « Je suis devenu la fable des gens, quelqu'un à qui l'on crache au visage. Mes yeux s'éteignent de chagrin, tous mes membres sont comme l'ombre. » Les passages bibliques où le peuple infidèle devient une fable, machal, ces passages signifie que le peuple infidèle est offert comme une image aux nations qui sont au courant. Et nous continuons, verset 10, « Alors vous tous, revenez à la charge, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. » Les amis de Job préfèrent accuser Job qu'accuser Dieu, en dogmatisant leur sagesse. Mais Job y oppose son expérience. Pour lui, le scandale, l'injustice demeure. Je crie au sépulcre, tu es mon père. À la vermine, c'est toi ma mère, au verset 14. C'est toi ma sœur. Où donc est-elle mon espérance et mon bonheur? Qui l'aperçoit? Face à ce cri de détresse, Bildad va rester sans amour, sans la moindre compassion. Il vise à sauver l'honorabilité de sa sagesse. Répondant à Job mot pour mot, il va jusqu'à affirmer que la perte par Job de ses enfants ne peut qu'être le fruit de sa méchanceté. Chapitre 18, verset 5, « La lumière du méchant doit s'éteindre. » C'est comme ça qu'il parle de Job. Poussé de la lumière aux ténèbres, il se voit banni de la terre. Il n'a ni lignée, ni postérité parmi son peuple, aucun survivant au lieu de son séjour. Sa fin frappe de stupeur l'Occident et l'Orient et saisit d'effroi. Point d'autre sort pour les demeures de l'injustice. Voilà ce que devient le lieu de quiconque méconnaît Dieu. Là est une question pour les lecteurs. Qui dans ses discours méconnaît Dieu? Est-ce vraiment Job dans sa souffrance? Ces paroles de Bildad ont de quoi anéantir Job, le réduire à jamais au silence. Eh bien, non. Au chapitre 19, Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand allez-vous me tourmenter et m'écraser par vos discours? Voilà 10 fois que vous m'insultez et me malmenez sans vergogne. » Et il continue « Mais en vérité, quand vous pensez triompher de moi et m'imputer mon opprobre, voilà leur intention, sachez que Dieu lui-même m'a fait du tort et enveloppé de son filet. Il a dressé sur ma route un mur infranchissable, mis des ténèbres sur mes sentiers. » S'il prenait absolument au sérieux les discours de ses soi-disant amis, Job pourrait ne plus avoir d'espoir. Il est préférable pour lui d'attribuer la tyrannie à Dieu, puisqu'il garde espoir en son Dieu, comme Dieu, au début du récit, affirmait sa confiance en Job. Et il continue au verset 21. « Pitié pour moi, ô vous mes amis, car c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, comme Dieu lui-même, sans vous rassasier de ma chair ?» Job continue à interpeller ses amis qui l'accusent. Et juste après, de nouveau, il va détourner d'eux son regard et le tourner vers Dieu, en des propos qu'il voudrait voir gravés sur le roc. « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. » Donc, nous venons de débattre sur cette question. Qu'est-ce que Job veut voir gravé sur le roc? Est-ce les paroles qui évoquent sa souffrance, qui nomment sa souffrance, ou est-ce sa confiance en Dieu, son Rédempteur? Je crois qu'on peut articuler les deux. Donc, calomnié et condamné par ses amis enferrés dans leur théorie, par ses amis incapables de se tenir à ses côtés, Job attend un défenseur, qui cette fois n'est autre que Dieu lui-même. Il affirme avec assurance que s'il est abandonné aujourd'hui, son racheteur parent, son Goël, vit et finira bien par apparaître pour le justifier. « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. » Qu'est-ce que le Goël, mon Rédempteur? Le terme désignait celui qui revendiquait un droit qu'un proche parent, souvent le plus proche, ne pouvait exercer pour lui-même. Qui aurait dû prendre la défense de Job en se tenant à ses côtés? Ses amis. Ils ne le font pas. Et voilà que la force, le génie du rédacteur, comme celui d'Isaïe et d'autres, est d'avoir appliqué le mot « Goël » à Dieu lui-même. Donc, dans la vie du peuple juif, le Goël, le racheteur, il pouvait avoir plusieurs fonctions. Soit racheter un terrain que quelqu'un avait dû vendre, mais qui appartenait au départ à sa famille, qui était un terrain de sa famille, qu'il avait dû vendre pour payer ses dettes. Soit il va racheter un parent tombé en servitude par la suite de ses dettes, comme en Lévitique 25, 48 à 49. Ou encore, le Goël va donner une postérité à un frère décédé en épousant sa veuve. Donc, il y a cette question, entre autres, dans le livre de Ruth, où la belle-mère de Ruth, Noémie, oui c'est ça, va chercher un goël, un proche parent, pour qu'il puisse épouser sa belle-fille, alors que le fils de Ruth, donc le mari de Ruth est décédé, eh bien Noémie va essayer de trouver un proche parent pour qu'il puisse sauver l'honneur de son fils en donnant une descendance. Et sauver Ruth par la même occasion. Le Goël peut aussi venger le meurtre d'un membre de sa famille. On l'appelle dans ce cas-là le Goël de sang, comme en Nombre 35, 9 à 30. Ici, parce que du fait de l'alliance, Dieu est apparenté par le sang à son peuple, il est présenté par Job comme son Goël. Il peut être Goël de son peuple ou d'un de ses membres, être son défenseur. Et donc c'est très fort, cette application de celui qui normalement est le proche parent a du sang commun avec une personne qui va venir le rédempteur. Eh bien ici c'est Dieu lui-même. Alors, il y a 17 occurrences du mot Goël dans le deuxième Isaïe, donc le livre d'Isaïe qui chante la libération de l'exil à Babylone, de l'esclavage à Babylone, si on peut dire, en tout cas de l'exil. Et ce mot revient aussi plusieurs fois dans les psaumes. Donc le psalmiste parle à Dieu, « Approche-toi de mon âme, sois son Goël, son rédempteur. De l'oppression, de la violence, Dieu rachète leur âme. Leur sang est précieux à ses yeux. Par ton bras, tu rachetas ton peuple. Il rachète à la force ta vie. Il te couronne d'amour et de tendresse. » Alors, une fois qu'ils m'auront arraché, je reprends la lecture au verset 26. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, en ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Lorsque vous dites comment l'accabler, quel prétexte trouverons-nous en lui, craignez pour vous-même l'épée, car la colère s'enflammera contre les fautes et vous saurez qu'il y a un jugement. Et donc, Job, au point limite entre la vie et la mort, une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, il concède à Dieu une intervention ultime, non pour le rétablir dans sa condition première en bonne santé, il ne demande qu'une chose, son espérance est de voir Dieu. Et c'est bien là qu'il entraîne le lecteur, dont la conscience n'a cessé d'être sondée. Selon la suggestion de Bernard, nous pouvons terminer cette lecture par quelques versets du psaume 26 dans la liturgie, 27 dans la Bible, des versets 2 à 5. « Des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer. Ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. »